Vous écoutez Europe Midi sur Europe 1, le journal présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
Bonjour Omeline, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Europe Midi. Avec à la une aujourd'hui, bien sûr, le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris qui vient de se terminer. 3720 militaires à pied pour représenter toutes les forces armées françaises. Défilé aérien également avec la patrouille de France et l'US Air Force. Dans la tribune officielle, un invité d'honneur cette année, le président Donald Trump. Nous allons vous faire revivre ce défilé en coulisses, puis nous reviendrons bien évidemment sur la polémique en marge de ces festivités autour du budget de la défense et après le rappel à l'ordre d'Emmanuel Macron aux militaires. Emmanuel Macron qui a abandonné la traditionnelle interview du 14 juillet au profit d'une allocution il y a quelques minutes. Son contenu, nous le verrons avec Antonin André. Au sommaire d'Europe Midi également, la journée de commémoration à Nice un an après l'attentat qui a fait 86 victimes. Journée de recueillement, d'hommage, un an après les plaies restent béantes. Le stress pour des dizaines de milliers de bacheliers, c'est à 14h que débute la troisième phase d'admission post-bac. Tous ne trouveront pas de place en faculté, nous dira Anne Le Gall. Et puis le Tour de France, bien sûr, après la victoire du Français Romain Bardet hier. Le classement général est chamboulé, 13e étape aujourd'hui. Départ 14h45 entre Saint-Girons et Foix. Une courte étape de 101 km avec trois cols à franchir. La météo, bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Le soleil gagne du terrain cet après-midi.
Oui, pour briller totalement jusqu'à mercredi matin au moins. Et cet après-midi, au sud de la Garonne et entre Normandie, Hauts-de-France et Alsace, c'est encore un petit peu nuageux. En région parisienne, c'est de plus en plus couvert aussi avec un vent qui se lève et qui se renforce. Mais le temps restera sec pour le feu d'artifice. Ailleurs, grand beau temps qui fait remonter les températures d'un à deux degrés.
Merci Valérie Darmon. Météo complète juste avant 13h. Europe Midi, c'est parti.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Du soleil pour le premier défilé du président Emmanuel Macron, traditionnel défilé du 14 juillet avec en guest star le président américain Donald Trump, bien sûr la patrouille de France en ouverture. Au sol, ce sont les soldats américains qui ont ouvert la marche sur les Champs-Élysées pour célébrer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Lors d'Autriche, le défilé est terminé depuis presque une demi-heure. Vous l'avez vécu au milieu d'une foule importante cette année.
Oui, une foule effectivement très dense sur les larges trottoirs des Champs-Élysées. Il fallait se lever très tôt ce matin pour être aux premières loges, juste derrière les barrières de sécurité. Et ce qui fascine le public, ce sont justement ces 200 soldats américains qui ouvrent la parade en rang, les Marines et leur célèbre uniforme blanc. D'autres sont habillés comme les soldats américains qui sont arrivés en France en 1917 pour aider les alliés dans une guerre qui n'en finissait plus. Ces soldats défilent aujourd'hui avec leur uniforme kaki et leurs casques plats qui sont d'époque, et ce sont bien ces soldats, bien plus que le président américain lui-même, que beaucoup sont venus voir.
C'est très très émouvant, ça fait plaisir de savoir qu'à travers le monde, il y a quand même une certaine unité qui peut régner. Voilà, c'est important ça. Trump, c'est pas forcément quelqu'un qu'on apprécie toujours, mais voir les Américains ici, ça nous rappelle quand même beaucoup de choses. D'abord, nous, on est allé aider les États-Unis avec Lafayette il y a quelques siècles de ça. Et puis, savoir qu'en 1917, les Américains étaient là pour nous aider et libérer la France, c'est important aussi.
Et puis, des chars de 1917 ont descendu les Champs-Élysées, et notamment un des premiers blindés qui a été créé à cette époque. Derrière les Américains, beaucoup d'applaudissements au passage des soldats français, et notamment ceux qui ont participé à l'opération Chamal et qui sont mis à l'honneur cette année. Beaucoup d'entre eux ont participé, par exemple, ces derniers mois, à la bataille de Mossoul en Irak. Ce sont toutes les forces françaises qui sont représentées dans ce défilé, raconte ce couple venu de Normandie.
J'aime beaucoup la garde républicaine pour le fun et puis le bruit des sabots sur les pavés des Champs-Élysées. C'est superbe, voilà.
C'est tous les véhicules blindés, tout ça, et l'armée, quoi. Moi, ce que j'aime plus particulièrement, c'est notre armée, en fait. C'est la France, c'est l'armée qui défend aujourd'hui notre nation, voilà. Et comme on est attaqué de plus en plus souvent, pour moi, c'est voilà, on est là pour rendre hommage à notre armée aujourd'hui.
Un défilé qui s'est terminé avec les musiciens militaires il y a quelques minutes. Ils ont interprété quelques morceaux très variés. C'est la fête de Michel Fugain ou encore des extraits du groupe français Daft Punk.
Merci Laure d'Autriche sur les Champs-Élysées à Paris. On va prendre un peu de hauteur maintenant avec le survol de la capitale à bord d'un Rafale. Un moment très fort que Jean-Sébastien Soldaini vous a fait vivre tout à l'heure sur l'antenne d'Europe 1.
Nous entrons dans dans le sillage bientôt de la patrouille de France qui vient d'allumer ses fumigènes bleu, blanc, rouge. Nous sommes en formation serrée, 4 rafales de l'escadron de chasse Normandie-Niémen. Il y a sur ma gauche le leader qui est en train de donner le tempo à cette escadrille. Voilà, la tour Eiffel est en train de passer sur ma droite, je pourrais presque la toucher du doigt. Ça y est, nous sommes sur les Champs-Élysées. Je vais passer la parole au lieutenant-colonel Mathieu qui est aux commandes de ce rafale pour savoir un peu quelles sont ses impressions au moment de ce défilé.
Eh bien écoute Jean-Sébastien, c'est superbe, beaucoup de concentration pour tenir en place, on est à moins de 30 secondes du passage. C'est un vrai plaisir, un honneur de défiler pour la France. Et bien sûr, j'ai une petite pensée pour tous mes amis, tous mes camarades qui bossent tous les jours, et aujourd'hui y compris pour la défense de la France. C'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire un petit peu. Mais merci à tous, c'est vraiment fantastique, c'est superbe.
Fantastique, c'est le mot. Moment exceptionnel à bord d'un Rafale grâce à Jean-Bastien Soldaini pour Europe 1. On continue à vous faire vivre ce défilé du 14 juillet en coulisses. Que ce soit dans les airs ou au sol, tout est réglé, on l'a vu, au millimètre près. Aude Leroy, vous avez pu suivre ce 14 juillet au cœur même du centre de commandement, là où tous les ordres sont donnés, là où tout est chronométré.
Oui, exactement. Ici, c'est vraiment le royaume des chronos et des radios. D'ailleurs, derrière le micro, le maître des horloges du défilé, le colonel Garnier, donne le top départ.
3, 2, 1, top animation.
Alors un peu plus tôt, le colonel Garnier, 66 ans, et pour qui c'est le 28e et dernier défilé, reçoit la visite du gouverneur militaire de Paris, le général Le Ray.
Il est 9h, le défilé se présente très bien. C'est de l'horlogerie fine, c'est une véritable opération militaire et donc il faut se tenir prêt à réagir à tout canon conforme.
Oui, sauf que voilà justement, il y a toujours des imprévus. Le colonel Garnier fait le point.
Il est 11h08, donc on a lancé le début du défilé. Tout était en phase. On avait un léger retard pour le départ de la deuxième unité, une minute. Donc on s'est demandé si on n'allait pas décaler le départ du deuxième défilé aérien. Et en fait, l'écart est en train de se rattraper.
On a eu une petite frayeur là?
Oui, pour le Saint-Chamond, quand il s'est arrêté, effectivement, on a eu un moment de flottement, surtout pour ceux qui n'étaient pas au courant que tout était prévu. Et à ce moment-là, on envisageait pendant le défilé aérien de le dépanner.
Oui, mais voilà, le vieux char est reparti et c'est là la magie de cette parade militaire. Il y a toujours quelques retards, 26 secondes par ici, une minute par là, mais personne ne voit jamais rien car ici au PC, on jongle avec les décalages. Le colonel Garnier est satisfait. L'an prochain, il sera derrière sa télé. La meilleure place, assure-t-il, pour admirer le défilé.
Aude Leroy, au cœur du PC de commandement pour Europe 1. Didier François, l'expert militaire d'Europe 1, est avec nous. Didier, vous avez bien sûr assisté au défilé côté tribune présidentielle avec une nouvelle ministre des Armées, un nouveau gouvernement et deux nouveaux présidents, le français Emmanuel Macron et l'américain Donald Trump.
Oui, voilà, beaucoup de nouveautés cette année, effectivement. Et visiblement, les deux hommes se sont bien entendus. Alors, pour l'instant, Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'est pas encore parti, ce qui est le cas de Donald Trump, une espèce de cohorte de véhicules absolument impressionnant. Donc, outre ces deux limousines blindées, il y a quand même une énorme escorte qui est venue le chercher, qui l'a accompagné, il est parti. Emmanuel Macron et Brigitte Macron lui ont fait un petit signe de au revoir très amical. Et là, donc, le président et son épouse sont en train de visiter les soldats qui ont été blessés en opération et aussi les pupilles de la nation, les victimes dont les parents sont morts soit en opération, soit dans les attentats terroristes et que le président de la République a décidé de mettre en avant cette année. Donc, vous voyez, c'est pas totalement terminé. Le président est encore en train de serrer des mains. On a eu un superbe défilé où on a vu vraiment l'ensemble des capacités de l'armée française, que ça soit en aérien, en hélicoptère, au sol ou sur les blindés. C'est ce que voulait aussi montrer le président de la République française au président de la République américaine, c'est-à-dire que les Américains sont venus à plusieurs reprises combattre à nos côtés, mais nous combattons aussi aux côtés des Américains. La France a les capacités, c'est un des seuls pays au monde à avoir l'ensemble de ses capacités, l'ensemble du spectre, dit-on, qui va du soldat jusqu'au satellite, ce qui est quand même assez rare. Elle a non seulement les capacités mais la volonté de combattre un ennemi commun, et c'est bien ce qu'a voulu démontrer le président de la République aujourd'hui à son homologue américain.
Merci Didier François, vous restez avec nous parce qu'on évoquera dans quelques minutes la polémique en marge de ce 14 juillet, polémique bien sûr sur le budget de la défense. Alors cette année il n'y a pas de grande interview télévisée, pas de questions-réponses, nouvelle manière de communiquer pour Emmanuel Macron. Le président Macron a choisi une allocution à l'issue de ce défilé, allocution qui vient de se terminer. On écoute le président Macron.
Il est des hommes et des femmes qui ont choisi de s'engager, de risquer leur vie pour que ces droits vivent, prévalent. Ils défilent en ce jour de fête nationale parce qu'ils sont l'armée de la liberté et des droits. Leur loyauté, leur dévouement, leur force nous permettent de vivre selon les règles que nous nous sommes choisies. La nation tout entière vous en remercie et je sais que c'est le prix du sang qui est parfois payé. Je sais les morts pour la France, les morts au service de la France qui laissent des veuves, des enfants, des parents, des proches.
Avec nous le chef du service politique d'Europe 1, Antonin André, bonjour.
Bonjour Thierry.
Antonin, l'hommage aux armées a été au cœur de cette cérémonie.
Oui, c'est une adresse à la nation beaucoup plus solennelle, effectivement, à laquelle on a assisté, que l'exercice, par exemple, d'interview du 14 juillet, qui ramène toujours le président à de la politique politicienne. Là, on est dans un message court, solennel, et c'est le président protecteur, c'est le chef des armées, rassembleur, qui s'est exprimé. Emmanuel Macron est très soucieux de la geste présidentielle qu'il veut restaurer. Et ce message, on avait tous les accents. Le contenu, au-delà du message d'amitié à l'allié américain et l'allusion à l'histoire qui nous dépasse, c'est l'hommage aux forces armées, on vient de l'entendre, qui nous protègent. Hommage aussi à leurs familles, les pupilles de la nation. D'ailleurs, en ce moment même, le président de la République est en train de multiplier les poignées de main et les accolades avec ses pupilles de la nation, c'est-à-dire ses enfants et qui ont perdu un proche parce que leurs parents nous protègent aujourd'hui. Et donc, il a employé des mots extrêmement graves, imagés. « Je sais le prix du sang », a dit le président de la République. Des mots qui apaisent, qui pense les blessures physiques et morales dans un climat de très forte tension, pour ne pas dire de fracture. C'est le paradoxe de cette cérémonie entre le chef de l'État et l'armée française.
Antonin André, le chef du service politique d'Europe 1. Tous les regards se sont tournés ce matin vers le général Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées. Il a bien assisté ce matin au défilé. Mais voilà, hier soir, c'est ce général qui a été vertement recadré par le président Macron après s'être insurgé devant des députés contre une réduction des moyens des armées. Écoutez, le général Vincent Desportes, il dénonce l'amateurisme de cette annonce gouvernementale. Il était l'invité de Maxime Switek ce matin dans la matinale.
Les armées sont choquées aujourd'hui parce qu'il a eu une posture qui montrait bien qu'il faisait attention aux armées, qu'il avait la considération. On se le rappelle, il y a quelques mois, le président Macron montant dans son commande-car vers l'Arc de Triomphe, on le voit à la fin de sa première semaine de mandat, aller au Mali, avoir un vrai discours fort vis-à-vis des militaires. Donc on pense qu'il a compris les besoins, il parle, il dit « je vais respecter vos contraintes humaines et matérielles » et puis il y a ça, et lui dit « écoutez, fermez vos gueules parce que vous êtes un ministère comme tout le monde ». Eh bien non, ça n'est pas un ministère comme tout le monde. Donc j'espère qu'il va revenir. Et puis, hier, il était dans une situation un peu difficile. Évidemment, il fallait qu'il dise quelque chose. Mais à mon avis, il y est quand même allé un peu fort. Parce qu'on a besoin d'une fusion très forte entre le chef des armées et le chef d'état-major des armées.
Le général Vincent Desportes qui ne mâche pas ses mots ce matin sur Europe 1. Didier François, je reviens vers vous. On vient de l'entendre. Les mots du général Desportes sont sévères. Dossier compliqué pour la nouvelle ministre des armées, Florence Parly.
Oui, dossier compliqué parce qu'en fait le recadrage est mal passé. Il faut quand même rappeler les faits.
On parle de 850 millions d'économies.
Oui, en fait, hein. La réalité, c'est que c'est plus. On est à plus d'un milliard qui sont sucrés aux armées en 2017. Alors qu'effectivement, de l'autre côté, on a des discours très apaisants, très engagés sur la défense de la France et des Français. Mais bon, voilà. Donc,
question Didier, est-ce que le général de Villiers, chef d'état-major des armées, qui était présent ce matin, on l'a dit, hein, on chuchote qu'il pourrait démissionner?
Après, ça sera son choix, mais de toute façon, la question ne se posera pas aujourd'hui et pas dans ces termes-là. Pour les militaires, il y a trop d'attachement à ce que représente l'unité entre l'armée et la nation, à ce qu'est le 14 juillet, à ce qu'est cette fête qui est vraiment très importante pour les militaires, pour se laisser embarquer dans des affaires de politique politicienne. Donc ils ne le feront pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les choses ne seront pas discutées, ne seront pas faites, mais en tout cas, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était ce défilé, et il a eu lieu, il a eu bien lieu.
Merci Didier. Didier François, spécialiste des questions de défense pour Europe 1.
Europe 1, il est 12h44. Europe Midi se poursuit dans deux minutes avec vous Thierry Dagiral.
Et avec la journée de commémoration à Nice, un an après l'attentat sur la promenade des Anglais. A tout de suite.
Europe Midi revient dans un instant. Midi.
La suite d'Europe Midi, Thierry Dagiral avec le recueillement à Nice aujourd'hui.
Oui, journée de recueillement, journée d'hommage, un an après le terrible attentat sur la promenade des Anglais, 86 morts, les plus jeunes avaient à peine 2 ans. Le président de la République est attendu en fin de journée à Nice pour une cérémonie avec des familles des victimes, mais aussi avec les agents qui ont œuvré cette nuit-là. Frédéric Michel, vous êtes à Nice, les hommages des Niçois ont débuté très tôt ce matin.
Effectivement, Thierry, et ce sont des milliers de personnes qui sont attendues ici, au bout de la promenade des Anglais. Beaucoup de Niçois et des touristes venus avec une rose ou vêtus d'un t-shirt « I love Nice ». Toute la journée, ils vont déposer des plaques bleues, blancs et rouges qui formeront un message dévoilé à 20h.
Le monsieur est technique, tu peux pas le mettre n'importe où.
Franck ne voulait pas manquer cet hommage, il est venu en famille.
C'était normal que les Niçois viennent faire un geste symbolique pour montrer que Nice continue à vivre et souhaite vraiment montrer au monde qu'on est tous solidaires.
Graziano est italien, lui aussi souhaitait être présent pour ces commémorations.
L'année dernière, j'étais ici, à 50 mètres du camion. J'avais derrière moi 86 morts, c'était terrible.
Depuis un an, Joël et Monique, deux amis retraités, ont du mal à revenir sur la promenade. Mais aujourd'hui, c'est pour elles un devoir.
Avant, je venais, je courais, mais maintenant, c'est difficile.
On est tous marqués par ça. J'ai de la chance d'être là pour leur rendre hommage. Je pense à ceux qui ont perdu un enfant. Il faut qu'on continue à vivre normalement. Cette journée doit aider à ça et toutes les autres journées, bien entendu.
Liberté, égalité, fraternité, c'est le message qui s'affichera ce soir sur la promenade des Anglais. Un message choisi par les victimes et leurs familles.
Frédéric Michel à Nice. Bien sûr, un an après le drame, les plaies sont béantes. 3000 personnes ont reçu une aide psychologique, dont plus d'un millier d'enfants. Des commémorations qui peuvent réactiver ce traumatisme. Écoutez le professeur Michel Benoît, psychiatre au CHU Pasteur de Nice. Il était ce matin l'invité de l'interview Vérité à 7h45 sur Europe 1.
Il faut que les victimes soient laissées libres de leur choix. Certaines ne viendront pas, mais beaucoup viendront, on peut le comprendre. Il est très important que collectivement, mais aussi individuellement, les victimes psychiques soient reconnues. Et bien évidemment, la commémoration avec les plus hautes autorités sert surtout à cela.
Et vous avez senti une montée de l'appréhension parmi les victimes à l'approche de ces commémorations ?
Pas tellement, pas appréhension de revivre, appréhension, oui, effectivement, d'en reparler. Mais il ne faut pas avoir peur de parler de l'événement du moment qu'on le fait de façon digne, du moment qu'on respecte, bien sûr, les éléments les plus traumatiques. Vous voyez à quoi je fais référence. C'est particulièrement important de ne pas taire les commémorations, de ne pas taire la souffrance, sans forcément en faire un étalage qui serait de mauvaise qualité.
Le professeur Michel Benoît, psychiatre au CHU Pasteur de Nice, au micro de Maxime Switek. Se replonger dans le passé, revivre ses blessures pour mieux les appréhender. En tout cas, c'est la question que pose ce futur film que s'apprête à signer Clint Eastwood, le réalisateur américain, va tourner le 15h17 pour Paris. Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour.
Ce film va raconter comment trois héros ont pu déjouer l'attaque djihadiste dans un Thalys. C'était en 2015. Et ces trois Américains qui ont évité le carnage vont jouer leur propre rôle.
Exactement. Anthony Sadler, Alex Skarlatos et Spencer Stone vont donc faire leur grand début au cinéma. Il faut dire que le scénario est inspiré du livre qu'ils ont écrit, intitulé Le 15h17 pour Paris, et qui devrait donc donner son titre au film. Il suivra leur vie jusqu'à ce 21 août 2015, lorsqu'ils sont intervenus dans le train Thalys Amsterdam-Paris pour neutraliser le djihadiste armé d'une Kalachnikov et muni de 9 chargeurs pleins. La majorité du tournage se déroulera à Amsterdam, mais une séquence devrait être tournée en gare d'Arras. C'est là que le train était immobilisé juste après la tentative d'attentat. Les caméras y tourneront fin août, mais Clint Eastwood ne devrait pas faire le déplacement. Ce sont ses assistants qui viendront mettre en scène cette séquence. Alors, c'est pas étonnant que Clint Eastwood adapte cette histoire, lui qui aime vanter les héros américains, notamment dans ses deux derniers films, American Sniper, l'histoire d'un tireur d'élite de la Navy envoyé en Irak, ou encore Sully, dans lequel Tom Hanks interprétait le pilote de l'US Airways qui avait posé son avion sur l'Hudson, sauvant la vie de 155 passagers. Mais c'est quand même la première fois que Clint Eastwood confie le premier rôle à ses héros et pas à des acteurs professionnels.
Mathieu Charrier, merci.
12h51 sur Europe 1, Europe Midi se poursuit dans deux minutes avec vous Thierry Dagiral.
Et avec le stress des bacheliers qui, dans presque une heure, certains seront fixés sur les études qu'ils feront l'an prochain ou pas. A tout de suite.
Europe Midi se poursuit avec vous Thierry Dagiral et avec le stress des bacheliers.
Ah oui, c'est un système qui rend fou les lycéens, les bacheliers, le fameux système APB, comprenez admission post-bac. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Vous suivez les questions d'éducation pour Europe 1. C'est à 14h précise que sera communiqué le troisième et dernier tour APB. On est à la mi-juillet et il y a encore des dizaines de milliers de bacheliers qui ne savent toujours pas quelles études ils vont faire à la rentrée. C'est le grand stress pour eux, pour les parents aussi.
Oui, car malheureusement, il n'est pas sûr que ce troisième tour de calcul de l'algorithme règle le cas de tous les étudiants sur liste d'attente, et notamment celui des 17 000 qui avaient pourtant inscrit en premier vœu une filière non sélective. Avec la hausse démographique et la réorientation de certains étudiants, APB a dû gérer cette année 150 000 candidatures supplémentaires. Beaucoup de filières sont saturées, d'où le stress de nouveaux bacheliers comme Adèle, qui ne sait toujours pas ce qu'elle fera l'année prochaine.
Je suis encore sur liste d'attente partout. J'ai quand même mis 18 choix et je suis encore sur liste d'attente pour les 18. Donc se dire que bon, bah, peut-être que l'année prochaine, on ne sait pas où on va aller, c'est un peu stressant et un peu frustrant.
Adèle aura peut-être une bonne nouvelle tout à l'heure, car avec les résultats du bac et le jeu des désistements de ceux qui se sont inscrits hors APB, des milliers de places ont dû normalement se libérer ces dernières semaines. Par ailleurs, en négociant avec les présidents d'université, le ministère de l'Enseignement supérieur a aussi réussi à débloquer 9000 places supplémentaires, par exemple en installant de la vidéoconférence dans certains amphis. Enfin, si certains n'ont toujours pas de possibilité d'inscription dans le supérieur ce soir, ils pourront encore participer à la procédure complémentaire d'APB. Toutes les places libres seront remises en jeu et chaque élève pourra formuler 12 vœux de formation pour la rentrée prochaine.
Anne Le Gall, merci. Le Tour de France pour terminer, et après le changement au classement général hier, c'est la 13e étape aujourd'hui entre Saint-Girons et Foix. Départ à 14h45, une étape extrêmement courte, 101 km. Une étape donc qui va être agitée, Axel May.
Oui, une étape deux fois plus courte que celle d'hier, 101 km en Ariège. Jamais depuis le Tour 1989, une étape n'avait été aussi courte. Un choix assumé et défendu par le responsable du tracé, Thierry Gouvenou.
Voilà, on veut vraiment casser les codes des tactiques des équipes et on veut les mettre en difficulté avec des scénarios de course différents à chaque fois. Oui, c'est court, mais c'est quand même en montagne. Il y aura quand même trois cols à monter et on peut faire 100 km à fond. On ne peut pas faire 200 km à fond.
Tony Galopin, dernier maillot jaune français un 14 juillet, c'était en 2014, s'attend à une course où le peloton va rouler à bloc du kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée. Pas le temps de s'arrêter pour faire pipi, de se relever, ne serait-ce qu'un peu pour récupérer, ni de se ravitailler sereinement. Fabio Aru, le nouveau maillot jaune, Chris Froome qui a montré des signes de faiblesse hier, et Romain Bardet, vainqueur de l'étape, le savent tous, une défaillance aujourd'hui et l'arrivée à Foix pourrait vite devenir indigeste.
Axel May sur la route du Tour.
À 13h15 sur Europe 1, vous retrouverez Christophe Ondelat qui vous parlera d'un des pires sadiques de l'histoire criminelle des États-Unis.
En 1969, le gourou Charles Manson donne l'ordre à ses adeptes d'aller tuer des pigs, des cochons. Il tue l'actrice Sharon Tate dans sa villa d'Hollywood.
On de la raconte de 13h15 à 14h sur Europe 1.
Et dans un instant, la météo.
Europe Midi revient dans un instant.
La météo, bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Alors Valérie, vous nous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui le beau temps s'installe, il va donc durer tout ce week-end.
Effectivement, l'amélioration va se poursuivre demain et les conditions estivales prendre leur vitesse de croisière dès dimanche. Demain, les nuages bas sur le Pays Basque finiront par se disloquer. Les nuages bas et d'altitude, cette fois présents entre les Hauts-de-France et la Bourgogne, seront de plus en plus discrets dans la journée. Des nuages bourgeonnent toujours un petit peu sur le relief alpin et sur les Pyrénées, donnant une toute petite averse. Et puis Mistral et Tramontane continuent de bien souffler entre 70 et 80 km/h. Seul bémol de demain.
Les températures, elles, ne bougent pas beaucoup.
Pas trop. Alors, petite fraîcheur résiduelle le matin. Des maximales qui sont en hausse et qui vont gagner 2 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui, avec 20 degrés annoncés par exemple à Cherbourg et à Dunkerque, 22 à Saint-Brieuc, 23 à Charleville, à Lons-le-Saunier, au Puy-en-Velay, à Reims, 25 à Bourg-en-Bresse, à Troyes et à Dijon, 26 à Rodez, 27 à Paris ainsi qu'à Tarbes et à Saint-Girons, 28 à Montluçon, 29 à Toulouse, 30 à Carcassonne, 32 à Marseille et 35 à Nîmes pour demain après midi.
Et dimanche ?
Plus nuageux près de la Manche, soleil et chaleur partout ailleurs, 29 en moyenne au nord et 32 au sud.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h. L'essentiel de l'actualité avec Thierry Dagiral.
Pas d'interview télévisée pour Emmanuel Macron, mais une courte allocution. Il a souligné dans cette allocution que rien ne séparera jamais la France des États-Unis. La France, a souligné le président français, a trouvé dans son histoire des alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours. Et les États-Unis d'Amérique sont de ceci. Pas d'interview télévisée donc, mais bien sûr le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées. Le défilé au sol avec 3720 militaires représentant toutes les forces armées françaises. À l'honneur, 39 militaires français de l'armée de terre, ceux qui ont organisé l'opération Chamal depuis 2014 en Irak et en Syrie pour lutter contre Daesh. Plus de 11 000 policiers et gendarmes étaient déployés pour lutter contre la sécurité d'une foule emballée par cette matinée, Sandrine Prioul.
Oui, un soleil généreux de 14 juillet, une foule immense, de nombreuses familles, certaines râpées du drapeau tricolore qui s'emballent dès le passage de la garde républicaine et d'Emmanuel Macron.
C'est bien de vivre au moins une fois dans le vif du sujet le défilé, quoi. D'être auprès de nos soldats pour les voir en vrai, ça, c'est pas.
Le ballet des avions, traditionnellement nourri d'applaudissements et d'extase. Les troupes à pied, l'honneur aux soldats mobilisés en Irak et en Syrie. La foule salue reconnaissante et redouble d'applaudissements au passage des forces de l'ordre, police et gendarmerie.
On est heureux d'avoir des policiers qui sont là et qui se battent bec et ongles pour conserver ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire la liberté.
Comme les militaires qui sont d'ailleurs chaque jour en Syrie, en Irak, en train de nous défendre, en train d'essayer de remettre un peu de démocratie dans des pays où on n'en a pas.
Un honneur que Christiane a particulièrement ressenti en voyant son mari défiler.
Pour eux, c'est un instant de fierté. Et je trouve que c'est un moment de communion entre la nation et l'armée. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'armée de terre. Voilà, des gens qui sont au contact et qui partent beaucoup en OPEX dans des conditions parfois difficiles. Et voilà, c'est ce qui m'a le plus touchée. Voilà.
Une communion, les hommages d'un public semble-t-il plus honoré par ses armées que par la présence du président américain à la tribune.
Merci Sandrine. Sandrine Prioul qui revient du défilé sur les Champs-Élysées. Dans les airs maintenant, on a pu voir l'US Air Force en honneur bien sûr au président Donald Trump qui assistait à la cérémonie et bien sûr la patrouille de France qui a ouvert ce défilé. C'était un moment fort que vous avez pu suivre ce matin sur Europe 1. Le défilé à bord d'un Rafale et à bord de ce Rafale, il y avait Sébastien Soldaini. La traditionnelle promotion de la Légion d'honneur également a retenu une promotion resserrée cette année. Sont distingués l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve, la doyenne des comédiennes françaises Gisèle Casadesus, mais également la journaliste politique Arlette Chabot, que vous entendez régulièrement au club de la presse d'Europe 1. L'autre grand titre de la mi-journée, c'est bien sûr la commémoration de l'attentat de Nice. Un an après le camion fou qui a fait 86 morts et 400 blessés, Emmanuel Macron assistera en fin d'après-midi aux hommages. Des cérémonies plus intimes ont eu lieu depuis ce matin. 12 000 plaques apposées au fil de la journée au bout de la promenade des Anglais, formant un message qui sera dévoilé dans la soirée. Et puis le concert, orchestre symphonique Calogero et sa chanson Feu d'artifice et des textes lus par Michel Bougenat, Patrick Timsit ou encore Lynn Renault. Un an après l'enquête sur l'attentat laisse planer plusieurs questions. Guillaume Bier.
Y avait-il un autre attentat prévu à Nice le 15 août? C'est l'une des questions qui reste en suspens dans ce dossier. Car dans des SMS envoyés par le terroriste, les policiers ont retrouvé plusieurs allusions au 15 août. Mais pour l'instant, impossible d'établir ce qui était réellement prévu. La motivation du tueur, elle aussi, continue d'intriguer. Certes, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat, opportunément sans doute, parce que le conducteur du camion a utilisé un mode opératoire préconisé par Daesh. Pour autant, un an après, aucune allégeance, aucun lien n'a été découvert entre lui et une quelconque filière djihadiste, pas plus qu'il n'a reçu de soutien financier. L'auteur du carnage était inconnu des services de renseignement. Il semblait surtout assoiffé de vidéos sanglantes et barbares. Malgré tout, c'est bien sous une qualification antiterroriste que l'enquête se poursuit et que 9 complices présumés, 8 hommes et une femme, sont actuellement en prison, poursuivis notamment pour avoir fourni des armes. Cependant, difficile même un an après de prouver que certains savaient vraiment qu'un, voire deux attentats se préparaient.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Les grands départs en vacances, journée orange sur les routes aujourd'hui, beaucoup de monde dans les aéroports également. Et justement, la compagnie EasyJet annonce ce matin la création d'une nouvelle compagnie aérienne EasyJet Europe qui sera basée à Vienne et qui permettra ainsi à l'entreprise britannique de voler sans entrave en Europe après bien sûr le Brexit. Allez, dans 2 mois, c'est déjà la rentrée scolaire. Et si le gouvernement a autorisé les communes à revenir à la semaine de 4 jours, toutes ne sont pas encore lancées. Avec un constat, Anne Le Gall, pour faire machine arrière, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Cela fait plusieurs semaines que les maires s'en étonnent. Repasser à la semaine de 4 jours, c'est simple dans certains départements, mais c'est plus compliqué dans d'autres. Visiblement, les DAZN, les représentants de l'éducation nationale au niveau du département, ne réagissent pas tous de la même façon. Et pourtant, ce sont bien eux qui, au final, doivent autoriser les maires à supprimer l'école le mercredi matin ou pas. L'association des maires en appelle donc au ministre de l'Éducation. Pour Agnès Lebrun, vice-présidente de l'association, il est grand temps de clarifier les règles.
Dans le Finistère, il y a un certain nombre de communes rurales qui ont demandé le retour aux 4 jours. Ce retour a été accepté. Et puis dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a plus de 100 communes qui ont demandé le retour à 4 jours et cela a été refusé pour leur très grande majorité. Notre souci, c'est qu'il y ait un traitement équitable.
Le ministère reconnaît quelques dysfonctionnements localement, mais il assure que les règles ont été rappelées. Pour repasser à 4 jours, il faut un consensus entre les mairies et les conseils d'école. À moins de 2 mois de la rentrée, les familles espèrent être fixées rapidement pour pouvoir s'organiser.
Les précisions de la spécialiste éducation d'Europe 1, Le Gall. Ce soir, c'est le 14 juillet, c'est le soir des feux d'artifice, mais aussi des balles des pompiers. Un grand classique, certains ont déjà eu lieu hier soir, comme à Chapeyrian. C'est en Isère, reportage signé Rémi Pierre.
Le programme de la soirée est copieux, retraite au flambeau, feu d'artifice filmé par un drone et un énorme buffet tenu par l'adjudant-chef Stéphane Roland, président de l'Amicale des pompiers de Chapeyrian.
Cette année, on a passé déjà 300 saucisses là, en 2 heures. Sur 14 fûts de bière, en 2 heures, on en a vendu 7. On a pris 140 kilos de frites et en 2 heures, on a passé la moitié. Et il n'y a bientôt plus rien.
Pour son frère Bruno, qui commande la caserne, ce bal, c'est un moment privilégié pour rencontrer les habitants.
C'est un moment où on croise les gens qu'on côtoie au jour le jour et puis qu'on va secourir un petit peu tous les jours. Et puis c'est un moment où se disent, effectivement, on n'est pas seul et il y a effectivement des pompiers. Ça leur permet de voir qu'on est là.
Des habitants très nombreux qui dansent devant le camion Sono où officie Florian. Cet enfant du pays, aujourd'hui pompier professionnel à Paris, est le DJ d'un soir.
C'est pas évident de gérer parce qu'il y a des jeunes qui sont très très insistants pour avoir des tubes de jeunes. Les vieux, ils font beaucoup d'efforts, je trouve, pour danser sur les tubes de jeunes. Et je vais essayer de trouver un mix pour faire une bonne alchimie entre les deux et que ça se passe bien.
Et la sauce prend bien. Michel et Christophe, la soixantaine, sont ravis.
Regardez les gens qui sont autour de vous, c'est merveilleux. Les gens s'amusent, les grands, les jeunes et les vieux.
Et Michel le promet, elle sera évidemment là l'an prochain pour le bal des pompiers. À Chapeyrian, Rémi Pierre, Europe 1.
Europe 1, il est 13h08.
Les détours du Tour avec Franck Ferrand. La 13e étape aujourd'hui en ce 14 juillet, départ 14h45, 101 km au cœur de l'Ariège, entre Saint-Girons et Foix. Bonjour Franck Ferrand.
Bonjour.
Alors Franck, aujourd'hui on reste dans les Pyrénées. De quoi vous nous parlez ce midi ?
13e étape pour cette 104e édition du Tour de France. Espérons que ça va nous porter chance. Étape pyrénéenne aujourd'hui encore et qui me donne envie de vous parler de torrents, de cascades, de sources, d'étangs et de lacs, de thermalisme aussi. Ce sont les Romains qui les premiers ont voyagé pour venir prendre les eaux pyrénéennes, des eaux généralement sulfatées et sodiques qui jaillissent à haute température de 20 à 50 degrés, des eaux réputées contre les rhumatismes et les maladies respiratoires. Nous allons aussi trouver sur notre route un certain nombre de cours d'eau. Ce sont un peu les repères de ce Tour de France. Nous avons lancé le tour sur les bords du Rhin, nous avons longé un temps la Moselle, nous nous sommes retrouvés sur les bords de la Saône, puis du Rhône. Depuis avant-hier, changement de bassin hydrographique, les cours d'eau que nous avons suivis coulaient non plus vers le nord ou vers le sud, mais bien vers l'ouest et l'océan Atlantique. La Dordogne d'abord, si bien dotée en site historique et préhistorique, et puis hier, la Garonne avec ses charmants affluents.
Et aujourd'hui, Franck, quelle rivière à l'horizon alors ?
D'abord le Sala, né de 9 sources dans le massif du Mont Valier, puis l'Alette, qui est un affluent du précédent et qui ne coule que sur 20 km. L'Arak, à peine plus long, 27 km, lui aussi affluent du Sala et donc sous-affluent de la Garonne. Enfin, bien sûr, l'Ariège. L'Ariège, grand affluent de la Garonne qui prend sa source dans les Pyrénées au lac Noir qui s'étire ensuite sur 170 km jusqu'à donner son nom à ce beau département, terroir volontaire et résistant. L'Ariège, c'est la terre courage. Il en faudra de nouveau aux cyclistes cet après-midi. Allez, on vous attend. Bonne route.
On sera là. Merci Franck Ferrand. Bonne étape. Direction la plage. à présent avec Valérie Darmon.
Et ce beau temps sur toute la façade ouest, entre Auray et Biarritz, où Andaille, les températures sous vos parasols qui affichent entre 21 et 24 degrés, 21 au Sable d'Olonne, 24 à Lacanau, et dans l'eau peu agitée entre 17 dans le golfe du Morbihan et 21 dans les Landes, beau fixe aussi en Corse, 29, 30, 31 d'ouest en est, 29 à Ajaccio, 31 à Bonifacio. Pour tour méditerranéen, toujours ensoleillé, venteux, rafale à 75 km/h dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, 60 entre Hérault et Roussillon. L'eau est à 20 degrés dans le golfe du Lion, 24 dans les Alpes-Maritimes et sur les côtes de la Manche. De plus en plus de soleil et des valeurs sous les parasols entre 20 à Étretat et 21 à Saint-Malo. Mer belle, mais froide évidemment, entre 17 sur la côte d'Opale et 19 dans le Calvados.
Merci Valérie Darmon.
Europe 1, il est 13h11.
Ça vaut le détour, vous le savez, tous les jours de cet été, nous partons à la découverte d'un endroit remarquable, étonnant, sur la route de vos vacances. Aujourd'hui, direction les rochers du Cidobre, avec le Tarn et ses granites. Benjamin Péter vous convie à une visite dans les carrières.
Lui s'appelle le Roc de Loire, référence à son bec et ses ailes sculptées par le temps. Un peu plus loin, sur le Sentier des Merveilles, les randonneurs croisent un éléphant, un poisson. Nous sommes dans le massif du Cidobre, massif granitique de 10 km sur 12, formé il y a 300 millions d'années. L'érosion a ensuite créé ces milliers de boules, caractéristiques aux formes parfois étranges. Adrien Musciante, de la maison du Cidobre.
Vous tomberez nez à nez avec une oie géante, nez à nez avec un petit éléphant, nez à nez avec une énorme rivière de rochers, avec le chapeau de Napoléon, sur plus de 100 km2. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Il y a plus de 60 parcours possibles à découvrir.
Dans sa petite maison en pierre, Jo Fiol, le géologue et conteur de la région, accueille les visiteurs. Lui qui est né ici ressent la magie du lieu.
Il est clair qu'ils ont une âme. Ils sont habités de quelque chose. Ces roches qui ont été fabriquées en profondeur, là-bas, à 5 ou 6 km de profondeur, ont emmagasiné plein de choses qui sont ce dont on est fait. Quoi, hein. Les mica, quartz, l'espate et tout ce qu'il y a dedans. Et tout ça, ça fait partie de nous parce que c'est en nous.
Quelques kilomètres plus loin, l'une de ces masses semble défier la pesanteur. En équilibre précaire, le Peyroclabado, emblème du Cidobre.
C'est le rocher le plus célèbre du Cidobre, un peu notre tour Eiffel. Hein. Une grosse masse d'à peu près 800 tonnes qui tient sur un socle d'à peine 1 mètre carré. Tout le monde nous demande, mais c'est l'homme qui l'a fait, vous avez rajouté du ciment, il tient tout seul. Il tient tout seul. Non, ce n'est pas l'homme, hein, c'est l'érosion, hein, tout ça c'est naturel.
Pascal, qui arrive de Savoie, est fasciné par ces blocs qui font travailler l'imaginaire.
Je suis une grande amoureuse de la nature et quand je vois des choses comme ça, je reprends vraiment ma place. C'est tout à fait magique. On peut imaginer cette forêt tout à fait habitée par des petits êtres magiques, comme on le trouve en Bretagne, comme on le trouve en Islande. On s'amuse avec nous, là.
Mais ce massif est aussi une économie. Un tiers est exploité. Florence Artero, qui assure les visites des carrières et des ateliers de transformation, constate l'attirance des visiteurs pour ce tourisme industriel.
Il y a à peu près 1000 emplois directs liés au granit, entre l'exploitation en carrière et les ateliers de transformation. Les gens sont curieux de savoir comment on extrait le granit et on a énormément de monde qui vient faire ces visites.
C'est des pierres naturelles et puis on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on a, les possibilités qu'on a avec des matériaux comme ça. Quoi.
C'est la mainmise de l'homme, mainmise au sens noble du terme, la mainmise de l'homme sur la nature et ce qu'ils sont arrivés à en sortir. Moi je trouve ça vraiment très 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 intéressant.
Alors 150 000 tonnes sont extraites chaque année, ce qui fait du Cidobre le premier producteur français de granit et fait toujours vivre 130 entreprises. Un granit qui, grâce à sa qualité exceptionnelle, est exporté partout dans le monde. Dans le massif granitique du Cidobre, Benjamin Péter, Europe 1.
Et voilà. Bon week-end à tous.
Merci Thierry Dagiral. On vous retrouve tout à l'heure à 14h et puis Europe Midi revient demain.